Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Je me tourne maintenant vers Michel Junot-Catuya. Il est l'ex-directeur de la zone Asie-Pacifique du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, expert dans les domaines de l'espionnage, de la sécurité nationale. Pourquoi on va parler de la Chine, l'ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes? On a appris plein de choses ces derniers temps. Salut Michel!
Salut Patrick.
Donc parlons d'abord de la nouvelle du jour, hein, la GRC qui dit avoir arrêté un espion chinois chez Hydro-Québec. Qu'est-ce que peuvent bien vouloir découvrir les Chinois chez Hydro?
Ah, les Chinois sont très, très, très actifs. C'est d'ailleurs probablement l'opposant le plus actif et le plus dangereux auquel on a à faire face sur la planète. Parce qu'ils déploient à grande échelle, justement, la collecte d'informations. Et c'est une technique qu'on appelle une collecte de masse. Donc, ce qui c'est, en fin de compte, c'est qu'on voulait avoir des informations stratégiques sur la recherche et le développement qui est fait dans le domaine des batteries électriques. On le sait, Hydro-Québec se spécialise là-dedans. Ils sont très en avance comparativement à beaucoup de compétitions sur la planète. Et cet individu-là, ben, il avait accès à cette information-là. Et pendant 4 ans, il a pris des informations, il a publié à son nom des informations et de la recherche en collaboration avec des institutions chinoises, universités et centres de recherche. Il a aussi publié des brevets à son nom. Donc, c'est vraiment un vol d'informations stratégiques, de propriété intellectuelle pour son profit personnel.
Donc, quand on est dans l'espionnage, on n'est pas simplement, disons, dans du matériel militaire, dans du matériel là, qui permet de, je sais pas moi, faire du renseignement aussi. On est aussi dans ce qui est industriel, qui touche pas nécessairement à la sécurité d'État.
Tout à fait, tout à fait. Depuis la fin de la guerre froide, en 1990, on est passé d'une confrontation militaire à une confrontation économique. Et on estime aujourd'hui que le Canada perd en moyenne chaque année entre 100 à 120 milliards de dollars par année, que ce soit en contrat, en part de marché ou en propriété intellectuelle. Donc ça, c'est de la recherche et développement dans lequel on a investi, qui nous est shippé avant que l'on puisse en tirer profit, donc il n'y a pas de retour sur notre investissement, et qui nous fait perdre des marchés, qui nous fait perdre des emplois. Donc, c'est très important. Et là, tout le monde s'y livre. Il n'y a pas que les Chinois. Il y a plusieurs pays, et même des pays alliés, qui viennent ici parce que le Canada est peut-être un peu moins bien équipé que d'autres au niveau législatif pour se défendre. C'est pas des enquêtes qui sont connues ou qui sont populaires et que l'on fait souvent. D'ailleurs, la GRC l'a admis. C'est la première fois depuis 2001, la date où on a mis en vigueur la loi sur la protection de l'information. C'est la première fois qu'on va porter des accusations de cette nature ici. Mais je peux vous garantir qu'avec 100 à 120 milliards de dollars, il y a plus qu'un cas qui s'est déroulé.
Évidemment. Michel, on a aussi appris la semaine passée que la Chine s'était ingérée dans les élections fédérales de 2019. On avait carrément envoyé de l'argent pour essayer de faire élire ou de battre des candidats dans des élections fédérales. D'abord, première question, est-ce que c'est surprenant?
Non, du tout. Moi, à l'époque où j'étais, en 98, on a publié un rapport où on avait découvert que l'ambassade chinoise à Ottawa avait donné de l'argent comptant aux banques électorales, aux banques des caisses électorales du gouvernement, du Parti libéral et du Parti conservateur la même année. Donc, ils jouent sur tous les fronts. L'idée, c'est vraiment... C'est un ensemble complet, là. Le vol de technologie, ça va aussi main dans la main avec des agents d'influence qui vont amener des politiques qui favorisent la Chine, qui favorisent le commerce avec la Chine. On se souviendra qu'avec sous M. Harper a vendu une compagnie, Nexun, en Alberta, pour 15 milliards de dollars, une compagnie dans le domaine de l'huile et du pétrole. Et nous, on n'est même pas capable d'acheter un dépanneur du coin en Chine. Alors, cette disparité-là, elle est utilisée, exploitée par la Chine, qui sait très bien qu'elle peut jouer de l'influence. L'arrivée des nouvelles politiques et du changement de cap que Mme Joly a annoncé la semaine dernière, écoutez, les spécialistes, on a tous dit alléluia en allégresse. Il était temps que ça arrive, ça fait des décennies qu'on le demande. Finalement, on s'est peut-être aperçu qu'il fallait le faire.
Au-delà des déclarations outrées, il me semble que j'ai pas vu de geste concret du gouvernement de Justin Trudeau. Est-ce que je me trompe?
Ben, ça s'en vient. Ça va s'en venir. Déjà, on a informé les compagnies chinoises qu'ils ne pouvaient plus acheter de métaux spéciaux, là, les métaux ou les minéraux.
Les terres rares, là.
Et voilà, exactement. On a interdit de plus en plus à certaines compagnies de faire des acquisitions ici. On a dit aux compagnies canadiennes de faire attention avec qui vous faites affaire. On a coupé les vives maintenant avec Huawei. On a dit qu'on s'en allait vers d'autres marchés comme le marché des Indes ou le Taïwan. Alors, ce sont des actions qui, tranquillement, vont envoyer un message important à la fois aux entrepreneurs canadiens, mais aussi vers la Chine, en leur disant, écoutez, là, c'est assez. Et je pense que ce changement de cap a été longtemps désiré et demandé. Maintenant, on va peut-être y assister. Avec ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il y a un comité permanent de la Chambre des communes qui va étudier maintenant cette ingérence étrangère en voulant littéralement planter des candidats manchouriens là, dans notre système.
D'ailleurs, je le précise, des candidats manchouriens, c'est quand une entité étrangère tente de faire élire des candidats pour qu'ils s'approchent le plus possible des hautes sphères du pouvoir.
Littéralement. Donc, on saisit, on comprend très bien qu'en ayant des agents qui vont opérer à l'intérieur même et qui semble avoir toute la légitimité nécessaire, ben on est capable de manipuler la destinée. Et ça, on le retrouve dans un petit livre qui a été écrit 2000 ans passés qui s'appelle « L'art de la guerre » par Sun Tzu. Donc, vraiment, les Chinois y ont écrit le livre sur le dossier.
OK. En terminant, Michel, parlons de ces travaux de la commission d'enquête Rouleau à Ottawa sur le gouvernement fédéral qui a invoquer la loi sur les mesures d'urgence là pour tout le convoi des camionneurs. Le SCRS a déclaré aujourd'hui, là, c'est David Vigneault, son directeur, qui a dit, écoutez, nous, là, on n'a jamais évalué ces manifestations-là à Ottawa et ailleurs au pays comme étant une menace pour la sécurité du Canada. Est-ce que c'est une affirmation qui t'a surpris?
Oui, effectivement, parce que les signaux étaient déjà tous là. Lorsqu'on a des organisateurs qui vont dire sur les réseaux sociaux, faut faire parler les armes, faut faire parler les balles, faut aller pendre M. Trudeau. À quelque part, il y a quelqu'un qui a manqué quelque chose dans l'évaluation. Mmh. On voit la montée. Moi, j'observe et j'ai été responsable au SCRS d'observer la montée de la droite depuis très, très longtemps. Ça fait une dizaine d'années que je le dénonce dans les médias que ça s'en vient de plus en plus. On le voit sur l'ensemble de la planète de la montée de l'extrême droite. On a vu des élections récemment en Italie et ailleurs qui portent justement l'extrême droite au pouvoir. De voir maintenant que ce n'était pas nécessairement une menace envers le gouvernement. Il y a quelqu'un qui dormait au gaz parce que on pouvait le voir et c'est exactement ce qui s'est déroulé. Et encore aujourd'hui, on le voit. On a eu une arrestation durant la manifestation d'un camion d'extrémistes qui était chargé comme un convoi militaire pour aller attaquer les gars de la GRC. Donc, à quelque part, il y a quelqu'un qui a vraiment mal évalué et sous-estimé cette montée de la droite et la radicalité qu'elle transporte avec elle.
Merci, Michel. Toujours un plaisir.
Un plaisir.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
On le sait, depuis plusieurs semaines, l'Iran est secoué par des manifestations. Les jeunes Iraniens ont pris la rue là pour d'abord protester contre le décès d'une jeune femme, Mahsa Amini. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs et elle est morte pendant sa détention. Depuis, ben ça décolère pas dans les rues en Iran, les Iraniennes, les Iraniens, qui continuent à défier le régime des mollahs. 326 morts, 2000 arrestations. Qu'est-ce qu'on peut faire comme démocratie ici au Canada, ailleurs dans le monde, pour soutenir les Iraniennes? On va parler de tout ça avec Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste de l'Iran et du Moyen Orient. Professeur Junot, bonjour.
Bonjour.
D'abord, ici au Canada, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir le mouvement de manifestation en Iran?
C'est pas évident de répondre à cette question-là parce que il y a pas d'option évidente de ce qu'on peut faire concrètement qui peut avoir un impact direct. Il y a des choses que les pays occidentaux comme le Canada peuvent essayer de faire à deux niveaux quand même. Premièrement, il y a l'imposition de sanctions additionnelles contre le régime. Donc, on l'a vu au Canada dans les dernières semaines, geler les avoirs de membres du régime qui ont réussi à envoyer de l'argent au Canada au fil des années pour essayer de les étouffer un peu plus, pour essayer de mettre un peu plus de pression. Le Canada le fait. L'Union européenne a annoncé différentes mesures au cours des derniers jours. Puis évidemment, les États-Unis le font beaucoup depuis longtemps. Puis ça, on peut continuer à le faire. Il y a de la place pour le faire un peu plus. L'autre option, c'est un soutien direct aux gens qui protestent dans la rue. Et ça, c'est pas évident parce que, d'un point de vue logistique, c'est pas facile. Le Canada, les États-Unis, on n'a pas d'ambassade en Iran. Même les pays européens qui ont une ambassade en Iran, ces ambassades-là sont très surveillées par les forces de sécurité iraniennes. Et l'autre chose, c'est que quand il y a un soutien rhétorique ou matériel, ça nourrit le narratif du régime que les protestataires, c'est des pions de l'Occident, du grand Satan américain. C'est pas vrai, mais en les soutenant, ça peut nourrir ce narratif-là. Alors, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Par exemple, des VPN, là, qui sont les espèces de réseaux privés qui permettent à des gens de contourner les firewalls imposés par le régime iranien pour favoriser les communications. Alors, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire, mais c'est pas facile.
OK, professeur Junot, vous êtes un spécialiste de l'Iran, et là, les images qu'on voit sont spectaculaires. Je veux dire, quiconque a un minimum de bonne foi et pas du bord des policiers à la solde de dictature religieuse qui tape sur les Iraniens. Mais au-delà des images, est-ce que dans la réalité, le régime est en train de craquer, ou est-ce que c'est une autre crise que le régime va réussir à traverser?
Je dirais que c'est probablement en quelque part entre les deux. D'un côté, le régime a effectivement traversé constamment des crises depuis plus de 40 ans. Des protestations, il y en a eu en 99, en 2009, en 2017, 18, 19. Ça aurait probablement continué s'il n'y avait pas eu la pandémie. Alors, le régime a beaucoup d'expérience pour réprimer des protestations puis pour survivre. Ceci étant dit, à certains égards, les protestations qu'on voit en ce moment sont sans précédent. Pas tant au niveau du nombre. En 2009, par exemple, il y avait plus de gens à la rue qu'aujourd'hui, mais au niveau de l'intensité des revendications, au niveau de la profondeur de la frustration, les gens à la rue aujourd'hui demandent pas des changements de politique du régime. Ils demandent le renversement du régime d'une façon beaucoup plus intense que par le passé. Puis aussi, ce qu'on voit, c'est des protestations, même si elles sont pas toujours si grosses que ça, dans des endroits, des quartiers, des plus petites villes conservatrices où le soutien au régime par le passé était plus fort. Alors le régime, pour le moment, je pense qu'il va survivre, mais il est affaibli, puis je pense pas qu'il va être capable de ramener les choses où elles étaient il y a deux mois avant que ça commence.
Rappelez-nous, qu'est-ce qui a causé la mort de cette jeune femme, Mahsa Amini, en détention?
Alors, comme vous l'avez mentionné, elle a été battue à mort par la police des mœurs ou la police de la moralité. En Iran, le régime a imposé des règles extrêmement strictes aux femmes en particulier, mais à la population en général, les minorités, les homosexuels, etc. Dans ce cas particulier-là, elle portait mal le hijab, le voile. Il était pas assez avancé. On voyait ses cheveux qui dépassaient. Et ça contrevenait aux règles de moralité imposées par le gouvernement. Ces règles-là ont été appliquées de façon inégale quand même là, au fil des années, mais pour des raisons qu'on peut pas identifier, peut-être parce qu'elle appartenait à une minorité ethnique, elle était kurde, et qu'il y avait peut-être du racisme de la part des policiers à son endroit, c'est pas complètement clair, mais en bout de ligne, parce qu'elle a pas respecté les règles, elle a été battue à mort. Des incidents comme ça, il y en a eu beaucoup au fil des années, c'était pas du tout unique, mais c'est une étincelle qui a vraiment parti le feu, un peu comme le feu a parti en Tunisie en décembre 2010, si vous vous rappelez, quand il y a eu un incident comme ça qui était pas unique, mais qui a mené à une explosion, là.
Donc, les Iraniennes et les Iraniens ne manifestent pas uniquement contre le port du voile. C'est plus large que ça.
C'est beaucoup plus large que ça. Au début, c'est sûr que c'était l'étincelle, c'était le catalyseur. Mais aujourd'hui, pour la majorité des gens qui sont dans la rue et pour beaucoup d'Iraniens qui sont pas à la rue parce qu'ils ont peur de la violence, de la répression ou d'autres raisons, la revendication principale, c'est la chute du régime. Et c'est là où les événements actuels sont sans précédent parce que des opposants au régime qui voulaient sa chute, il y en a toujours eu depuis le jour 1 de la République islamique, mais l'intensité et l'étendue de cette revendication-là, elle est sans précédent.
On a coupé, le Canada a coupé ses liens diplomatiques avec avec l'Iran. Nous n'avons plus d'ambassade là-bas. Est-ce que dans le grand ordre des choses, est-ce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe là-bas ou est-ce qu'on s'est tiré dans le pied en fermant l'ambassade?
Ben, comme vous dites, le gouvernement précédent conservateur a fermé l'ambassade canadienne en Iran et l'ambassade iranienne au Canada en 2012. Les libéraux ont essayé de réouvrir ça en 2015. Ça n'a pas marché et donc on n'en a pas. De façon générale, moi, je suis très fermement dans l'école. Il faut avoir des ambassades partout. Même dans les pays qu'on déteste, dans les pays les plus dictatoriaux, chez nos plus grands ennemis, il faut garder ces canaux de communication ouverts là pour différents objectifs diplomatiques, mais aussi pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Alors aujourd'hui, pour le Canada, de pas avoir d'ambassade sur le terrain en Iran, c'est problématique parce que ça donne à nos diplomates, à notre gouvernement, moins d'informations directes. Ceci étant dit, ce qu'on voit dans les dernières semaines, même si c'est pas clair, c'est que les pays européens qui ont encore une ambassade en Iran, leurs déplacements sont extrêmement limités. La police, les services de renseignement, de sécurité iraniens les étouffent complètement. Là, ils ont très peu de marge de manœuvre. Alors, de façon générale, oui, c'est un problème, mais aujourd'hui, en bout de ligne, l'utilité serait là, mais limitée. Là.
OK, professeur Junot, je vous amène sur un sujet connexe. Là, on s'est souvent parlé de sécurité nationale, vous et moi. Il y a eu toute cette histoire récemment là, de l'ingérence chinoise dans les élections québécoises canadiennes en 2019. On a tenté d'influencer les résultats dans 11 circonscriptions. La réponse du gouvernement canadien à cette nouvelle-là, est-ce qu'elle vous semble assez vigoureuse?
Non. L'ingérence chinoise et, en passant, russe, iranienne et par d'autres pays, dans les élections canadiennes et de façon plus générale dans la politique canadienne, c'est un gros problème. Vous et moi, on en a parlé en détail là, au printemps, entre autres, quand nous, à l'Université d'Ottawa, on avait publié un gros rapport là-dessus. Le Canada n'en fait pas assez. L'histoire qui est sortie avec Global News, c'est eux qui ont sorti le scoop à l'origine, là, sur les détails de cette ingérence-là, c'est pas surprenant. Dans les grandes lignes, on le savait que c'est un problème, puis on le sait que le gouvernement en fait pas assez. Alors, en bout de ligne, je pense que ce qu'on doit espérer, c'est que l'attention médiatique sur cet enjeu-là, puis sur la faiblesse de la réponse du gouvernement, ça va provoquer le gouvernement éventuellement à agir au moins un peu. Là.
Merci d'avoir pris le temps, professeur Junot. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
J'essayais de me dire... Je suis une victime. Il faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai du poids, j'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un à... Tu sais, je suis une sur neuf, là. Je ne veux plus être dans les neuf. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les neuf personnes.
J'ai envie de dire, je ne suis pas une victime. Je ne sais pas à quoi ça a servi, mais... Des clics...
Après ça, avec du recul, je me questionne, est-ce que c'était parce que moi, personnellement, j'avais vécu une expérience avec Julien, puis que j'étais fâchée, puis là, est-ce que c'était un désir de vengeance et tout? Je me suis vraiment, vraiment questionnée là-dessus.
OK, c'est un extrait d'une enquête qui est déclinée en balado ici au 98.5 et dans des textes dans la presse. Ici au 98.5, à cette antenne, c'est la journaliste Marie-Ève Tremblay qui a signé la portion balado, la portion enquête dans la presse, c'est Isabelle Haché qui l'ont fait. Les deux journalistes ont travaillé ensemble, fait les entrevues. Deux ans plus tard, on raconte où en sont certaines des femmes qui avaient dénoncé l'humoriste Julien Lacroix au journal Le Devoir. C'est une enquête d'Amélie Pineda qui avait mené à la chute du jeune humoriste. Donc là, on va faire l'entrevue avec les deux journalistes, mais il faut que je fasse une petite précision. Transparence totale, il y a une des journalistes, Isabelle Haché, que je connais, que j'estime beaucoup, qui est une collègue, une de mes collègues à la presse. L'autre journaliste que je connais, que j'estime beaucoup, Marie-Ève Tremblay, c'est ma blonde. Donc, je ne vais pas faire d'entrevue là-dessus et je ne vais pas commenter là-dessus. C'est Catherine Beauchamp qui va poser les questions.
Go. Alors, bonjour mesdames.
Allô,
merci
Catherine.
D'être avec nous aujourd'hui. Écoutez, j'ai écouté évidemment les balados, j'ai lu les textes qui sont signés par Isabelle Haché. Je veux savoir au départ, c'était quoi l'intention quand vous avez eu l'idée de monter ce dossier-là conjointement? Qu'est-ce que vous vouliez dire et qu'est-ce que vous vouliez amener avec l'affaire Julien Lacroix, deux ans plus tard?
Mais le point de départ, c'est vraiment une publication qui a été faite sur les réseaux sociaux par Geneviève Morin, qui est l'ex de Julien Lacroix. Elle avait participé à la dénonciation il y a 2 ans. Elle avait dit qu'il l'avait agressée sexuellement. Puis, au début du mois d'octobre, elle en a pris plusieurs par surprise en publiant un long message où elle exprimait certains regrets. Par rapport à toute cette histoire-là, elle disait qu'elle avait senti avoir été comme instrumentalisée. Elle dénonce aussi la violence parce qu'elle a dit « J'ai pris la peine de dénoncer la violence et on répond par la violence » en lien avec Julien Lacroix. Ce qu'on apprenait, c'est qu'elle l'avait revu cet été, qu'ils se sont assis ensemble, qu'ils se sont expliqués. Puis ce qu'elle dit, c'est que si elle avait à refaire les choses, elle le ferait différemment. Elle se serait assise avec lui avant. Et puis ce qui marque, c'est qu'elle mentionne qu'elle en ressort plus fragilisée. Moi, quand j'ai vu cette publication-là, je me suis dit, c'est intéressant, c'est un point de vue qu'on n'a pas encore entendu. Ça fait 5 ans MeToo, ça fait 2 ans cette histoire-là. Puis son message a aussi généré d'autres commentaires, notamment un d'une femme qui disait aussi avoir participé sous le couvert de l'anonymat. Puis qui disait, je te comprends tellement Geneviève, moi aussi je me sens comme ça, je suis un peu prise depuis 2 ans, je sais pas quoi faire. Donc moi, je trouve que si leur parole est importante il y a 2 ans, elle l'est tout autant aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce qui explique pourquoi on a décidé de mettre cette réflexion-là sur la table aujourd'hui par le biais de témoignages de femmes qui ont dénoncé il y a 2 ans.
Est-ce que, je vais m'adresser à Isabelle, mais est-ce que vous pensez que ces témoignages-là sont dans le fond minimisés parce qu'elles ont vu l'impact? Est-ce que c'est ça qui fait changer d'avis sur la façon dont ça s'est passé avec les...
Pour beaucoup d'entre elles, oui. Ben pour certaines d'entre elles, oui. C'est exactement ce qu'elles nous ont dit. Elles ont vu à quel point c'était violent, ce que Julien Lacroix recevait sur les réseaux sociaux. Julien Lacroix, non seulement il a perdu toutes ses opportunités dans le milieu de l'humour, mais il est même pas capable d'aller travailler au Costco. Là, je veux dire, il a essayé de faire ses services de bénévolat à 3 organismes différents. Les 3 organismes ont dit merci, mais non merci. Donc, il est comme un peu poigné chez eux. Il se sent vraiment comme dans un cul-de-sac. Quand il sort avec son bébé parce qu'il a un peu peur de se faire attaquer. Quand il commande de la bouffe, il donne pas son nom parce qu'il a peur que les gens crachent dans la nourriture qu'il commande. Donc, tout ça, tous ces éléments-là, je pense que ces filles-là, presque toutes les filles, en fait, qui l'ont dénoncé le connaissaient quand même assez bien. Geneviève Morin, excusez-moi, c'est quand même, elle a passé 6 ans avec lui. Elle a eu une relation significative avec lui. Donc, c'est pas comme si c'était un gars sur le coin de la rue qui l'avait agressé, là. C'est plus complexe que ça. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte.
Oui, parce que dans le balado, ce qu'elle explique, dans le fond, c'est, elle dit, on était 2 personnes mal équipées avec une relation toxique. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est pas nécessairement une agression que j'ai vécue, en fait. Il y a ce manque de clarté-là, peut-être, dans le est-ce que c'est une difficile. Agression ou ce n'est pas une agression? Puis je voulais juste revenir aussi sur le fait qu'il y avait eu d'autres cas qui étaient sortis. Il y avait eu les Roson, Salvaille, Marie-Pierre Morin. Et on l'avait vu, l'impact de ce que ça pouvait donner médiatiquement, un boom comme ça, dans des dénonciations. Et elle n'avait pas pensé nécessairement à ça avant de le faire.
Mais je pense que c'est important aujourd'hui de dire que elle n'invalide pas son histoire. Il est arrivé quelque chose, là. C'est juste qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle est plus capable d'utiliser les mots agression sexuelle. Mm-hmm. C'est ça l'affaire. T'sais, elle le dit très bien dans le podcast. T'sais, il a dépassé ma limite. C'est quelque chose qu'il y avait entre les deux. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'elle dit j'aurais dû m'asseoir avec lui avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une pression sociale à témoigner, notamment en 2020. C'est-à-dire que toi, tu as vécu quelque chose de désagréable. Il y a des rumeurs qui courent après quelqu'un. Les rumeurs qui circulaient, c'était devenu très grave. Toi, tu es là, tu as vécu quelque chose. Tu te dis, ben là, mon Dieu, c'est un monstre. Puis si je me tais, est-ce que je suis complice de l'agresseur? Si je parle, je suis alliée du mouvement, il faut être solidaire. Donc, il y a tout ça, là.
Mm. On va l'écouter, d'ailleurs, Geneviève Morin.
Avec le recul, je ne le referai pas. Mais avec le recul, là, je parle de Geneviève 2022 qui connaît la justice réparatrice puis qui a goûté. C'est ça, la vraie solution. C'est de s'asseoir puis réparer, là. Puis, j'ai pas l'impression aujourd'hui que la conversation a fait avancer les choses. J'ai pas l'impression qu'il y a une conversation sur les dénonciations qui a été faite.
Est-ce qu'on est dans un climat encore hermétique sur le plan des dénonciations puis des agressions sexuelles? Est-ce que vous avez l'impression, en écoutant Geneviève Morin, qu'on est dans un cul-de-sac?
Ben, moi, je trouve que oui. Je veux dire, quand Marie-Ève m'a approchée pour collaborer avec elle dans cette enquête-là, moi-même, j'ai fait « Oh, j'ai-tu vraiment envie de me lancer là-dedans? » Parce que c'est tellement délicat, puis personne ne l'a fait encore. Personne ose remettre en question ce genre de dénonciation publique-là. Donc, oui, effectivement, il y a une espèce de crispation par rapport à ça. Puis nous, on a mis vraiment des gants blancs. Puis je pense que ce qui nous a permis, en fait, de faire ce reportage-là, c'est que c'est pas notre opinion à nous, c'est qu'on est allé voir ces femmes-là. C'est les mêmes femmes qui ont dénoncé en 2020 qui, aujourd'hui, nous racontent leur expérience par rapport à ça. Puis c'est tout le but du reportage. C'est ça, vraiment, qu'on voulait faire. Puis c'est ça qu'on leur expliquait. Puis c'est pour ça, je pense, qu'elles nous ont fait confiance puis qu'elles sont venues nous parler puis que ça a donné ce que ça a donné. Là. C'est quand même assez choc, là, comme témoignage, mais c'est juste ça qu'on veut faire. Là. On n'a pas d'objectif. L'idée, c'est pas de blanchir Julien Lacroix, c'est pas de se demander si c'est le temps pour lui de remonter sur les planches. C'est pas non plus même de renier le mouvement MeToo. Là. On se dit, oui, c'est un mouvement qui est important, qui a libéré la parole des femmes.
Qui a contribué à l'éducation aussi. Mm-hmm.
Oui, puis donc...
Depuis les deux dernières années.
Tout à fait.
Beaucoup, là, oui. Et je me pose la question, est-ce que ces femmes-là ont été facilement approchables? Est-ce qu'elles ont douter avant d'aller se confier comme ça?
Ben, ça dépend. Certaines d'entre elles, oui. Effectivement, il y en a qui étaient plus volontaires, qui avaient vraiment envie de parler. Puis Alice Payet, je pense qu'elle voulait vraiment... Elle est sortie même de l'anonymat. Là. Elle avait témoigné sous le couvert de l'anonymat il y a 2 ans parce qu'elle trouvait que son anecdote était justement... Son histoire était anecdotique.
Oui, on va en parler justement. Mm-hmm. Alice Payet a rencontré Julien Lacroix dans le milieu d'une fin de soirée.
Ouais.
Ils se croisent à l'intersection d'une rue, se parlent. Il la crouse, il l'invite carrément à venir à la maison. Elle refuse parce qu'elle est en couple. Et finalement, bon, fait mime de...
Il insiste.
Elle vient pour partir. As-tu du feu? Il se donne un bec sur les joues. Puis finalement, il y a un baiser qui apparaît sur la bouche.
Un bec.
Et là, finalement, cette personne-là raconte l'anecdote à une amie. Mm. Et l'ami dit, écoute, tu t'es fait agresser. Et je veux qu'on entende l'extrait d'Alice Payet. Je vais vous revenir après avec ma question.
Et je pense qu'on a vraiment utilisé les éléments, on les a décortiqués pour me faire admettre que oui, j'avais été victime d'une inconduite sexuelle de la part de Julien Lacroix. Mais quand je regarde au fond de moi, est-ce que j'ai été victime de quoi que ce soit? Est-ce que je vis avec un inconfort depuis ce moment-là? Non. Le seul inconfort que j'avais, c'est que j'avais un copain, puis je trouvais ça vraiment ordinaire d'avoir donné un petit bec à Julien sur le coin d'une rue.
Elle dit, on a décortiqué les éléments pour me faire admettre que j'ai été une victime. Comment? Qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut faire admettre un acte comme celui-là quand finalement pour elle il s'était rien passé.
Mmh. Ben je pense qu'il faut se ramener en fait à cette époque-là. Là. En juillet 2020, il y avait vraiment une pression pour témoigner. C'était la deuxième vague de dénonciation. Il y avait des centaines de personnes qui étaient dénoncées sur les réseaux sociaux. On parle de la liste, dit son nom, etc. Donc elle, je pense qu'elle a été emportée vraiment dans ce tourbillon-là. Il y avait des gens dans son entourage qui lui ont demandé de témoigner en 2019, de mettre le nom
sur la
de Julien
liste.
Lacroix sur une liste. C'est pas la liste de son nom, mais c'est une autre liste d'agresseurs dans le milieu de l'humour. Puis par la suite, un an plus tard, la même personne lui a demandé, ben, tu pourrais-tu parler au devoir? Là, ça, on a des développements. Donc, elle, je pense qu'elle s'est sentie un peu comme emportée dans tout ça. Elle pensait pas nécessairement qu'elle deviendrait la neuvième victime. Elle pensait que c'était juste jaser avec la journaliste pour établir un pattern.
Ça se voulait solidaire.
Oui.
On va vous arrêter un instant. On va passer à la pause, puis on va revenir justement pour discuter de ça.
On va poursuivre la discussion avec Marie-Ève Tremblay et Isabelle Haché. 16h43, on continue la discussion avec les journalistes Marie-Ève Tremblay et Isabelle Haché au sujet de cette enquête. 2 ans après l'enquête du Devoir sur Julien Lacroix, comment se sentent certaines des participantes à cette enquête?
Moi, je suis curieuse parce que dans l'article et dans le balado, vous avez parlé à Rosalie Vaillancourt et vous avez aussi parlé à Audrey-Anne Dugas aussi, qui était une jeune humoriste montante. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on cherchait à faire du recrutement de témoignages. Est-ce qu'il y a eu de la manipulation en coulisses autour de la façon d'aller chercher de l'information pour amener ça au Devoir?
Je sais pas si manipulation, c'est le mot qu'on devrait utiliser, mais effectivement, ces deux humoristes-là sont allés chercher des témoignages, ont recruté des gens pour témoigner, que ce soit Geneviève Morin dans le cas de Rosalie Vaillancourt, Audrey-Anne Dugas est allée chercher Alice Paillé, et d'autres aussi là. Donc effectivement, il y a eu un travail de recrutement entre guillemets, donc avant que la journaliste du Devoir soit contactée, donc sont arrivés un peu avec un paquet qui ont donné ça de témoignages. Donc on peut se poser des questions par rapport à ça, parce que ces deux humoristes-là, je pense qu'elles y croyaient vraiment. Nous, on leur a parlé aux deux.
Elles
étaient convaincues qu'il fallait l'arrêter. Là. Mais d'un autre côté, elles étaient toutes les deux en brouille avec Julien Lacroix, en espèce de conflit professionnel pour l'une. Pour l'autre, Audrey-Anne Dugas, c'était plus une chicane qui avait eu lieu 2 ans auparavant. Donc ça pose aussi des questions, parce qu'il y a à tout le moins une apparence de conflit d'intérêt là-dedans.
Et en terminant, vous avez parlé à Julien Lacroix, vous l'avez nommé au début. Est-ce que, pourquoi c'est nécessaire de parler à Julien Lacroix? C'est le dernier épisode du balado et un des textes aussi de ce matin dans la presse.
Bien, le point de départ de Geneviève pour faire cette sortie-là sur son compte Instagram, il y avait le fait qu'elle dénonçait le traitement populaire réservé à Julien Lacroix. Donc, je pense que d'aller voir Julien Lacroix 2 ans plus tard, comme ces femmes-là, c'était de dire, ben, tu sais, comment ça se passe de ton côté? Tu sais, il y a des filles qui sont pas d'accord avec le traitement qui t'est réservé. Alors, je pense que ça allait de soi qu'on lui donne la parole aussi.
On vous remercie tous les deux et puis on vous invite évidemment aux auditeurs à vous rendre sur le site du 98.5 FM pour aller écouter la série de balados et d'aller lire les de Marie-Ève Tremblay et d'aller lire aussi les textes d'Isabelle Haché. Il y a énormément de détails justement pour compléter votre pensée.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
La nouvelle était sortie le 1er septembre. Les résidences, les Floralies, c'est à La Salle et à La Chine, étaient mises sous tutelle pour des allégations de mauvais traitement, de négligence des résidents aînés là-bas. Un enquêteur avait été nommé par Québec. Et le rapport a été rendu public aujourd'hui. Les observations, les conclusions sont épouvantables. Maltraitance, plaies non traitées, des résidents déshydratés à qui on donnait pas d'eau, par exemple. Les Floralies, je le précise, ce sont des CHSLD privé. La ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Sonia Bélanger, est avec nous. Madame Bélanger, bonjour.
Bonjour.
Je lisais ça, c'est le même genre d'abandon qu'on a constaté à Aaron, sans les morts et sans les ravages de la COVID.
En fait, La situation est quand même différente là, par rapport à Aaron. On sait que Aaron s'est survenu en pleine période de COVID. Et malheureusement, là, on a vu tout ce qui s'est passé. Là, ça a été quand même assez dramatique. Dans le cas des Floralie, c'est une situation là qui est systémique, qui graduellement, au fil du temps, on voyait qu'il y avait des plaintes de plus en plus fréquentes, des problèmes de gestion, des problèmes à faire des suivis des différentes recommandations. Et puis, ce qui est arrivé au printemps, en fait, là, c'est qu'il y a eu vraiment une augmentation importante des plaintes. Les commissaires aux plaintes ont regardé l'ensemble des situations, ont fait des enquêtes, puis se sont rendus compte que c'était pas juste des situations par rapport, malheureusement, aux résidents, mais aussi, là, ça touchait toutes les sphères, la gestion, la gouvernance, et puis l'ensemble de l'organisation.
Est-ce qu'il y avait des visites qui étaient des visites d'enquête non annoncées?
En fait, non. Alors, je dois vous dire qu'il y a eu plusieurs visites d'évaluation.
Annoncées.
Des visites d'évaluation annoncées. Alors, avec plusieurs recommandations et ce qu'on a vu et ce qu'on m'a mentionné, c'est que à chaque fois, il y avait des petits ajustements qui étaient faits, ce qui laissait supposer que, bon, la situation allait éventuellement s'améliorer. Mais dans un genre de situation comme ça, on a beau y aller avec des petites solutions à la pièce, il reste que si on n'attaque pas l'ensemble des éléments, on parle dans cette institution, dans le fond, de problèmes de gouvernance, de gestion, de recrutement de personnel, de formation, de compétences du personnel. Alors, c'était vraiment majeur et j'y reviendrai tantôt.
Ça appartient à qui, ça, les Floralie?
Les Floralie, en fait, ça appartient à un consortium français qui ont acquis, en fait, l'entreprise en 2019. Et ils avaient donc un directeur général qui opérait sur place, qui n'est plus présent, naturellement. Depuis la mise en tutelle de cet établissement, ce monsieur n'est plus présent. Alors, ils se sont départis de ce directeur général. Et actuellement, l'établissement est en mise sous tutelle. Okay. Et c'est le CIUS de l'Ouest qui opère l'établissement.
OK. C'est privé, donc il faut que ça fasse un profit. Ça fait combien de profits par année, les Floralie?
Ben, je pourrais pas vous dire, parce qu'il n'y a pas eu une analyse. On n'est pas dans le plan d'affaires, là, on n'est pas dans l'analyse financière de ça. Aujourd'hui, dans le fond, on a regardé vraiment le rapport qui a été fait par Michel Delamarre qui concernait la qualité des soins.
Mais est-ce que vous le savez combien de profits ils ont fait?
Je n'ai pas ces informations-là.
Est-ce que vous pouvez le savoir?
On pourrait certainement vérifier. On pourrait vérifier. Il reste que c'est une entreprise privée, non? Alors, mais il reste que c'est une entreprise privée et on peut aller chercher l'information. Maintenant, il faut voir ce qui est disponible.
Mais est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Puis je vous pose la question, Mme Bélanger, pour une raison bien, bien simple. Voici un opérateur de CHSLD privé qui reçoit des fonds de l'État, qui néglige ses résidents. Il y a même des cas où il y a des cas de maltraitance, d'agressivité envers les résidents. Il y a des résidents qui n'avaient pas de quoi boire. On dit qu'il manquait d'équipement, qu'il manquait de personnel. C'est pas une question banale de savoir si, malgré tout ça, l'opérateur faisait du profit.
Oui, il faut regarder ça, mais là, je vous rappelle quand même que c'est une entreprise privée, ce n'était pas un CHSLD subventionné. Il faut quand même faire la différence. C'était vraiment pas un CHSLD subventionné, c'est un CHSLD privé.
Mais l'État payait pour placer du monde là.
Dans certaines situations, parce qu'il y avait des achats de places.
Oui.
Donc, c'est une partie des 500 places, là. C'est une partie qui était subventionnée par l'État, mais pas l'ensemble de l'entreprise, là, naturellement.
OK. Là, ils vont être en tutelle pendant combien de temps?
La tutelle va s'exercer pendant 180 jours, donc 6 mois. Et la tutelle est en place depuis le 1er septembre.
Puis après ça, le groupe français qui est propriétaire de Les Floralie va récupérer sa business.
Je ne suis pas là du tout au moment où on se parle. Pour moi, là, ce qui était le plus important, c'était qu'on puisse mettre l'établissement en tutelle pour redresser la situation. D'abord, la situation quotidienne des usagers. On parle au niveau de l'alimentation, de l'hygiène, on parle des soins, des services professionnels. Le CIUS de l'Ouest a la pleine responsabilité pour émettre un plan d'action et poursuivre les résultats.
Là, si je comprends bien, le gouvernement, via le CIUSSS de l'Ouest de l'île, a dépêché des équipes volantes pour s'occuper des gens, c'est ça?
Mais c'est pas vraiment une équipe volante, c'est une équipe quand même plutôt stable. Ils ont déjà amené, fait des changements au niveau de la gestion. Ils sont allés chercher des personnes qui ont d'expérience dans le CHSLD. Actuellement, c'est comme je vous disais, c'est pas une question financière. L'argent est déployé pour ajouter les ressources, pour acheter les équipements, pour faire la formation, mais le compte sera transmis en bonne et due forme à l'entrepreneur. Ça revient à l'entreprise de payer les frais. Mais pour le moment, comprenez qu'on n'est pas à attendre de recevoir un chèque là pour agir. On est vraiment à déployer les ressources nécessaires. Et c'est ce que le CIUSSS de l'Ouest fait actuellement. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle là, parce que depuis le printemps dernier, avec la loi sur la maltraitance, on peut maintenant
agir plus rapidement.
Agir plus rapidement et plus que ça, agir dans une entreprise privée. Là, on est en train de se parler de ça entrer pour gérer. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle.
OK. Avant de faire le saut en politique, Sonia Bélanger, là, avant de devenir ministre déléguée aux aînés, vous étiez présidente du CIUSSS du Centre-Sud de Montréal. Est-ce que le CIUSSS du Centre-Sud de Montréal faisait affaire avec les Floraliers? Est-ce que vous achetiez des places pour vos résidents?
Oui.
Est-ce que vous saviez que c'était des tout-croches à l'époque?
Non. Je ne le savais pas. Puis il faut
aucune
dire
indication.
Qu'il y avait 5 établissements qui faisaient affaire, qui achetaient des places aux résidences Floralie, La Salle et La Chine. Le CIUSSS Centre-Sud était l'établissement qui avait le moins grand nombre de places. Et on m'a jamais rapporté qu'il y avait des problématiques dans ces CHSLD. Moi, j'avais une commissaire aux plaintes et à la qualité qui relevait directement du conseil d'administration et qui siégeait à notre comité de vigilance. Et il n'y avait pas là de plainte plus que dans d'autres établissements ou d'autres programmes.
OK, Mme Bélanger, vous êtes une experte du réseau. Là. Votre expertise est saluée. Maintenant, vous êtes ministre. Dans votre jugement professionnel là, d'experte du réseau, d'avoir des CHSLD privés où il faut faire un profit avec les soins qu'on prodigue, est-ce que c'est compatible avec bien soigner le monde?
Je dirais, écoutez, il faut faire attention. Là, il y a près de 350 CHSLD publics au Québec et 47 CHSLD privés. Fait que vous voyez tout de suite le poids, là. Donc, on est vraiment 47 CHSLD privés et dans plusieurs des CHSLD privés, il y a une bonne qualité de service. Alors, il y en a quelques-uns qui ne sont pas capables de respecter la mission d'hébergement et de soins et services à des personnes vulnérables en perte d'autonomie. Ceux-là, on va s'en occuper. Pour moi, j'arrive en fonction comme ministre délégué à la santé et aux aînés et c'est tolérance zéro. Et c'est clair pour moi que les gens qui gèrent ces entreprises ont la responsabilité de donner des services de qualité. S'ils sont pas capables de le faire, ben on va utiliser le levier qui est à notre disposition, qui a été adopté au printemps, c'est quand même assez récent. L'autre chose que je veux mentionner, nous avons une équipe qui relève directement du ministère pour faire des visites d'inspection.
Non annoncées?
Non annoncées. Et c'est ce que j'ai dit cet après-midi à la conférence de presse. J'ai parlé de visites surprises. Alors ça, c'est un autre levier extrêmement important qu'on va utiliser. Vous savez, dans les CHSLD privés, c'est possible qu'il y ait des écarts, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse redresser les situations. La situation Floralie est vraiment importante. Elle est systémique, elle touche beaucoup d'aspects. Si on n'est pas capable de redresser la situation, ben on passera à une autre étape, on prendra les décisions nécessaires pour assurer les services de qualité.
Je vais vous résumer ce qui rentre en temps réel dans la messagerie, là, Madame la ministre. Ça donne pas envie d'aller dans un CHSLD.
Ben oui, je comprends tout à fait, parce que malheureusement, ce qu'on ressort dans les médias, ce sont les situations qui vont pas bien, puis il faut les sortir, puis il faut les dénoncer. Puis il faut agir pour plus que ça se reproduise. Mais je veux quand même dire qu'il y a des CHSLD et d'autres types d'institutions qui donnent des services extraordinaires avec des employés qui ont le cœur à l'ouvrage.
Mais c'est quand même crève-cœur de constater que ça puisse exister encore.
Tout à fait, et c'est inadmissible.
Merci, Mme Bélanger.
Merci beaucoup.
Sonia Bélanger, la ministre déléguée aux aînés.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.